Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Invitation au Bonheur. Comme chaque lundi, je reçois un invité différent. Et cette semaine, mes invités sont...
Alors, Alizée et Marianne.
Alizée et Marianne, vous les connaissez probablement puisque ce sont les deux fées qui nous accueillent dans la librairie des gens qui lisent. Eh bien, aujourd'hui, c'est une émission très spéciale, puisque j'étais venu, en fait, pour dédicacer quelques-uns de mes exemplaires du tome 2 de Bonheur Chronique. Nous sommes dans la librairie des gens qui lisent, et j'ai profité de cette occasion pour demander à nos deux amis de partager leur vision du bonheur, puisque c'est cette émission Invitation au Bonheur. Je vous invite à parler ensemble du bonheur. Alors d'abord, le bonheur, si vous deviez donner une définition du bonheur, ça serait laquelle, Alizée?
C'est dur. Une définition du bonheur, ben c'est un peu tout, non? Je ne sais pas, c'est...
Le bonheur est un tout. Marianne?
Le bonheur, je ne sais pas si c'est la définition la plus travaillée qui soit, mais moi je le vois comme quelque chose de simple. Le bonheur, c'est quand les choses coulent d'elles-mêmes, quand on ne se pose pas de questions. Je vois ça comme ça, quand c'est simple et quand
le bonheur, c'est léger. Le bonheur, c'est quelque chose de simple.
Ouais.
Donc c'est un tout simple. Si on mélange vos deux définitions.
C'est ça.
On
passe le projet.
Alors bien sûr, je commence par une question difficile parce qu'il y a autant de définitions de bonheur qu'il y a d'individus, il y a autant de visions du bonheur qu'il y a aussi de séquences dans nos vies. Il y a des moments où on peut avoir une vision du bonheur qui est différente. Alors justement, la petite Alizée, quand elle avait 6-7 ans, c'était quoi son bonheur à ce moment-là?
Je pense que c'était de chanter très très fort dans sa chambre, je suppose. C'était de sortir, voir les copains, aller à l'école, créer beaucoup, toujours. Ma maman a toujours un atelier dans lequel je passais mes journées. Aujourd'hui, j'ai le mien, donc c'est que ça me plaisait déjà. Mais oui, je pense qu'il y a plein de choses qui touchent à mes mains, le chant, l'art, globalement, je pense que c'était ça, ouais.
D'accord, l'art c'est du bonheur, finalement.
Ah oui, ouais. 100%.
D'accord, ça veut dire que ton bonheur, Alizée, t'as besoin de l'exprimer, en fait.
Je pense, effectivement, oui, ça se traduit quelque part, j'ai besoin de le traduire, peut-être, pas que de le penser.
D'accord, il ne te suffit pas de le vivre, t'as besoin de le partager.
Ah, ouais. Ouais,
d'accord.
Apparemment. Oui.
Et donc voilà, peut-être une autre définition du bonheur. Le bonheur, c'est peut-être du plaisir partagé aussi.
Ouais. Oh oui, globalement, je pense que quand je vois le bonheur, je le vois avec entouré, je le vois avec des gens, effectivement, dans des moments simples, effectivement, mais globalement partagé.
D'accord, donc c'est pas un sentiment vécu de façon seule, solitaire, une réflexion, une introspection, il y a aussi
Si aussi, parce que tu vois spontanément quand tu me dis le bonheur, je vois moi qui me réveille le matin avec un ray de lumière devant mes yeux, tu vois quelque chose de très très solaire, etc. où je suis toute seule, donc d'instinct, tu vois, je suis seule, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette manière-là, donc je le partage aussi.
Ok, merci. Et toi, Marianne, la petite Marianne de 6-7 ans, elle le vivait comment, son bonheur, à l'époque?
Je ne sais pas comment elle le vivait à cette époque, mais la Marianne d'aujourd'hui, qui porte un regard sur la petite Marianne, je pense spontanément à l'extérieur, à être dehors. Et à l'époque, vraiment, je ne sais pas si je le pensais comme ça, mais en tout cas, aujourd'hui, quand je m'imagine heureuse dans le bonheur, en étant jeune, je m'imagine, ouais... être dans la petite ville où mes parents habitent toujours, aller en forêt, aller dans les champs, se balader, cueillir des trucs à droite à gauche, voilà, être dehors, respirer de l'air frais, c'est un peu cliché de le dire comme ça, hein, mais c'est spontanément ce qui me vient, et même être dans la toute petite cour, le tout petit jardin qu'on avait, avec un arbre, c'est ça que je projette.
Le bonheur, c'est la nature?
Bah... peut-être.
Le bonheur, c'est la liberté. Il y a de ça. Hein. Il y a être libre dans la nature, c'est ça?
Être au milieu de quelque chose de plus grand, être dans... à l'extérieur. Vraiment l'air frais. Je sais que c'est une expression un peu toute faite, mais pour moi, toi, Alizée, tu parlais du rayon de soleil. Il y a un peu de ça aussi, quoi. Quelque chose où tu as l'impression presque que c'est magique, un petit instant comme ça, et ben c'est ça, être dehors, voir.
Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler des moments de grâce ?
Mais je crois que c'est ça. C'est un moment de grâce, exactement.
Et qui sont, en général, les moments de grâce sont faits de choses d'une grande simplicité. Moi, ça m'évoque aussi quand certains ciels sont très nuageux et qu'on a des rayons de soleil qui passent à travers.
Ouais,
moi, quand j'étais petit, je crois que c'était Dieu, ça.
Ouais, c'est ça.
C'était drôle, hein, oui. Bien, alors ça, c'est donc la petite Alizée et la petite Marianne à l'époque. Qu'est-ce qu'il vous reste aujourd'hui dans votre concept, dans votre vie de bonheur de cette petite fille? Est-ce qu'elle est encore présente?
Alors moi, non seulement elle est présente, mais plus encore qu'elle ne l'était. C'est-à-dire que je parlais de l'art, j'ai tout le temps bricolé. Et aujourd'hui, dès que je rentre chez moi, je bricole, je couds, je découpe. Une journée où je me sers pas de mes mains chez moi. Alors je dirais pas que c'est une journée perdue, mais c'est quand même une journée où j'ai pas... où je ne m'en souviendrai pas comme hyper lumineuse. Alors que si je rentre chez moi, que je crée, donc, ou que je me sers de mes mains, ou que je fais quelque chose que j'aime, la notion de bonheur, elle est toujours là, encore plus. Encore démultipliée par rapport à la petite moi.
Oui, donc l'enfant intérieur est toujours disponible, toujours prête à créer, à
toujours.
Imaginer. Je reviens sur la notion d'expression, parce que pour moi, l'art, c'est d'abord de l'expression. C'est-à-dire une façon de tourner vers l'extérieur, une pression intérieure. Est-ce qu'il y a de ça aussi?
Ah, je pense. Ah, bah, je pense que ça m'a évité des années de psychanalyse. Ça fait entre guillemets trop de bien. Enfin, c'est une manière de se retourner aussi vers l'intérieur. Parce que certes, c'est pouvoir montrer aux autres et échanger, mais c'est aussi se faire une sorte d'introspection de qu'est-ce que j'ai envie de ressortir de moi, qu'est-ce qui en sort maintenant et qu'est-ce que je veux garder à l'intérieur pour l'instant et qu'est-ce que je veux faire sortir et ça y est, c'est prêt. Et c'est prêt à être fait avec mes mains, un peu comme quand tu travailles la terre ou la glaise, etc., où tu en fais des choses vraiment manuelles, tu le travailles et ça ressort de toi.
Et ça ressort, ça naît en toi, en fait. Moi, ça me fait penser à Denis Marquet qui parle du vide créateur. C'est-à-dire, à un moment donné, on est tellement retourné vers soi, on lâche tellement tout ce qui vient de l'extérieur, qu'on touche quelque chose de profond, d'unique, et là, la création naît. Elle naît de ce rien, en fait. Et cet enfant intérieur, chez toi, Marianne, elle est présente, elle se rappelle à ton souvenir?
Oui, je ne sais pas comment répondre à cette question, Jean-Marie. Pardon, toi, t'as trouvé tout de suite ton rapport à l'art. Moi, j'ai commencé ma réponse tout à l'heure en disant je ne pense pas que je conscientisais le bonheur comme ça quand j'étais petite. Alors qu'aujourd'hui, tout de suite, ma réponse, elle vient de la moi adulte et c'est une évidence. Donc, je pense que oui, tout est encore lié. Mais
moi, quand je pense à toi, je pense à cette jeune femme qui part aux antipodes. Découvrir un monde, et il y a ce côté aventurier de petite fille qui finalement est partie vers l'extérieur.
Mais je l'avais complètement oublié.
Probablement.
C'est une expérience. Mais oui, absolument. Tu as raison. En fait, je ne conscientise pas les choses comme ça, mais c'est exactement ça. Je suis littéralement partie à l'autre bout du monde où j'ai passé, je dirais, 8 mois sur 9 dehors. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui.
Et donc, tu étais au contact de la nature ou dans un milieu de ville minérale?
Il y avait un mélange de tout ça, mais même dans... C'est vrai que l'Australie, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est un territoire vraiment très grand où la nature a une place... Enfin, l'extérieur, en fait, pas forcément la nature, parce qu'on a quand même été dans des milieux très urbains, mais l'extérieur, le contact avec les... Voilà, que ce soit... Des arbres, des forêts, des parcs, de la mer, l'océan, ce qu'on veut, c'est présent et c'est ça qui façonne le quotidien. Donc c'est vrai qu'en fait, même sans le vouloir ou même sans le chercher, on est en contact permanent avec ça là-bas. Ouais.
Merci. On va passer dans une autre phase de cette émission. Mais auparavant, on va écouter un titre que vous avez choisi, l'une ou l'autre. Je laisse les auditeurs le découvrir. D'entendre qui se lance.
Et je pense que
Alizé.
Du coup, je pense qu'on vient d'entendre même Amiya de Abba. Voilà.
Impossible de rester insensible à cette chanson.
Cette chanson, elle a une histoire pour vous deux ?
Alors, chez moi, je ne sais pas si elle a une histoire. Je ne pense pas que mes parents aient jamais écouté Abba chez moi. Je ne sais pas quand est né Abba chez moi, mais en tout cas. Je sais que tous les matins, je viens en écoutant Abba.
C'est ton rituel du matin,
c'est-à-dire
ça.
C'est-à-dire que c'est mon rituel du matin. J'ai les albums sur mon téléphone. D'ailleurs, je n'ai que des albums d'Abba sur mon téléphone. Enfin, on peut faire la vérification. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et je chante. Je chante dans la rue. Alors très bas parce que j'ai pas envie qu'on m'entende. Mais ouais, effectivement, ça me met la pêche le matin.
Abba dès le matin, ok.
Un bon petit déj.
Avant le petit déj. Pardon. Et toi, Marianne ?
Alors moi, c'est peut-être pas aussi comment dire ?
C'est pas aussi addictif a priori.
Non, pas du tout. C'est juste que typiquement, quand on parle d'une chanson entraînante pour se mettre le bonne humeur dans une bonne ambiance, c'est vrai que je pense aussi spontanément à celle-ci. Je confirme, nous les écoutons très souvent à la librairie. Voilà.
Parce qu'on choisit nos programmations musicales tous les jours.
C'est vrai, c'est un classique et ouais, vraiment, je suis pas trop dans la danse, l'expression corporelle, tout ça, mais ça me donne vraiment envie de danser quand j'écoute ça aussi.
D'accord, donc dans la playlist de la librairie des gens qui lisent.
C'est un incontournable.
L'incontournable, c'est ABBA. Et donc, vous stockez, vous rangez, vous livrez vos bouquins sur le rythme d'ABBA, en fait.
Mais exactement. L'ouverture de carton sur Mamma Mia, c'est impressionnant. À voir.
Bien, écoutez, moi, j'ai jamais encore assisté à cette cérémonie, à ce rituel. Mais ça me donne vraiment envie, du coup, de revenir encore plus souvent dans la librairie. C'est vraiment super. Eh bien, autre petite question, on revient sur le thème qui est le thème du bonheur. Ensuite, Jérémy, quelque chose que j'aime bien savoir aussi, c'est si vous deviez symboliser le bonheur avec un objet, ce serait quoi ?
Un objet ? Est-ce que je peux répondre mon chat ?
Si ton chat est un objet d'attention ou d'intérêt pour toi, peut-être on peut le voir comme ça.
Non, c'est l'objet de mon attention, si ça fonctionne. Oui. Du coup.
Alors qui est l'animal domestique de l'autre ? Est-ce que tu dis mon chat ou est-ce que lui dit mon Alizé ?
Ah ben je pense que je suis son humain, oui. Je suis son humain, c'est-à-dire qu'elle prend plus de place que moi dans le lit. Elle, le bonheur, c'est 24/24, je pense. Gratouille, papouille. Voilà, mais je me vois en mon chat peut-être, et donc du coup c'est un objet du bonheur pour moi, je sais pas.
Et est-ce que c'est un professeur de bonheur, le chat? Est-ce qu'il nous apprend à être heureux?
Alors je sais pas s'il nous apprend à être heureux, mais je pense que elle m'apprend à m'arrêter aussi. Je suis en train de faire des choses, je suis dans une spirale de, je sais pas, je n'arrête pas, je cuisine, je fais quelque chose, et elle me somme de m'arrêter pour avoir de l'attention, et ça me permet aussi de faire une pause. C'est comme un rappel, tu vois, de arrête-toi et prends ton temps aussi.
C'est elle qui décide de ce qui est essentiel.
Ouais, tu vois, ça fonctionne bien.
Ça marche. Et toi, Marianne, un objet ou du coup un animal qui symboliserait le bonheur?
Alors, même si mon chien est la définition propre du bonheur, je vais choisir plutôt un objet inanimé, non vivant. Et désolée, je fais un placement de produit, mais une bibliothèque remplie.
Ah, quand même, parce que j'étais en train de me dire, mais alors depuis le début, le début de nos échanges, j'ai le bonheur de parler avec mes libraires préférés, d'être dans la librairie. De venir en plus pour les livres, pour mon livre, et puis on n'a pas parlé de livres encore jusqu'à présent.
Ouais. Non, mais évidemment une bibliothèque remplie qui déborde un peu, qui est rangée, parce que moi j'aime les bibliothèques et les endroits rangés, mais pas trop quand même.
Mais un peu dérangée aussi.
Qui dépasse un peu.
Vivante.
Ça c'est chouette, exactement. Voilà, où on sent qu'on a ajouté des choses. Et où il y a de la diversité, de tous les formats, de toutes les thématiques, de tous les genres. C'est vraiment... il y a un côté à la fois rassurant, un côté où on sait qu'on a des choses à découvrir, qu'on a des choses à apprendre, et qu'on peut s'y réfugier. Enfin voilà, c'est vraiment...
bonne réponse, en fait.
Ah, elle est jalouse.
Oui, un peu.
Allez, à toi. Alors, les livres réalisés, c'est quoi cette histoire ?
Alors moi je pense que ça date, je me vois pas sans livre entre les mains. Mon grand-père était professeur des écoles, donc j'ai appris à lire très très tôt. Alors il faut savoir que je suis une grande dyslexique, une grande dyspraxique, dyscalculique, tout ce qu'il faut.
10 sur 10
Alors 10 sur 10 à fond, mais... Je n'ai jamais eu de problème avec la lecture, ce qui est pourtant l'un des plus gros soucis en général chez les 10.
C'est souvent le cas, oui.
Et voilà, j'ose dire que le livre, ça m'a sauvé, ça a sauvé ma vie, mais sur plein d'aspects, sur des aspects aussi personnels dans ma famille, etc. Parce que ça permet aussi beaucoup d'évasion quand on se sent pas forcément bien. Mais ça a sauvé ma vie, ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui et le métier que j'ai. Non, ouais, je dois énormément au livre, je pense. Ouais.
Les livres nous forment et nous transforment.
Absolument.
Ouais. Ils nous livrent le monde et nous délivrent aussi des mondes qu'on n'apprécie pas forcément.
Exactement. Exactement. Ça sauve. Moi, en tout cas, ça a sauvé mon enfance. Ça. Ouais.
Et toi, Marianne, les livres très tôt aussi, ou c'est une histoire que tu arrivais plus tard ?
Non, des livres très tôt, des livres toujours. Dans ma famille, on a on est tous lecteurs et lectrices, donc c'est vrai que le livre a toujours été un objet du quotidien. J'ai eu la chance, voilà, d'avoir des parents qui nous emmenaient deux fois par mois à la bibliothèque, à la médiathèque ou à la bibliothèque de ma ville, à faire des choses en rapport avec la lecture, voilà, à nous lire des BD, alors que c'est pas forcément les livres, l'objet qu'on lit à ses enfants, donc c'est vraiment un objet qui m'a accompagnée tout le temps. Et je me souviens que même dans mes études supérieures, une de mes super profs, vraiment en lettres modernes, nous avait dit « Vous ne pouvez pas être littéraire si vous n'avez pas toujours un livre sur vous, dans votre sac ou dans votre poche. » Et en fait, elle a formulé à voix haute quelque chose qui était une évidence. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours un livre sur moi, même si c'est pour aller faire une course, ce qui n'est pas forcément très logique, mais voilà, toujours un livre avec moi. Ouais.
Au cas où.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais, on pourrait avoir un petit temps de lecture
disponible.
Faire
la queue
disponible.
À la caisse, voilà.
Absolument. Toi aussi, tu as toujours un livre sur toi, Olivier ?
Ah, toujours. Un ou plusieurs, j'ai un grand sac, alors parfois j'en mets trop, mais ouais, toujours.
Plusieurs livres en même temps.
Non, je pense que j'aime bien les savourer vraiment un par un.
L'un après l'autre.
Mais on ne sait jamais. Des fois que je finirai mon livre, il m'en faut un autre juste après. Donc,
alors, tiens, une question. Est-ce que vous aussi, vous avez l'angoisse des 50 dernières pages ?
Moi, j'ai une malédiction. C'est que quand je suis sur le point de finir un livre, ce n'est pas l'angoisse des 50 dernières pages, c'est que les 5-6 dernières pages, je n'arrive pas à les finir en temps et en heure. Il y a toujours quelque chose, par exemple, si c'est la pause du midi, tu peux être sûr que les dernières pages, je n'arriverai pas à les finir avant de reprendre. Et c'est systématique. J'ai la malédiction de la fin du livre. C'est un truc de fou.
La malédiction des 5 pages. Et toi,
ouais, les 50 dernières pages, ouais, c'est une bonne angoisse, celle de non, je ne veux pas finir
oui,
quand même. Parce que
j'ai envie de rester encore
c'est
dedans.
C'est un truc qui se termine et oui. Ouais, je ne me sens pas très bien. Surtout si c'est une longue série, une trilogie ou quelque chose comme ça, ouais, ça va me... Ah, se plonger dans un univers, c'est quand même
fait. Ah, c'est dur.
J'ai pas envie d'en sortir.
Ah, c'est
ouais,
clair.
C'est
d'accord. Et quand on sait qu'il existe une suite.
Alors, ah. Ça, la merveille.
Ah, qu'est-ce que c'est bon. Bien. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Déjà, j'ai envie de dire, le moment est passé très très vite. Et écoutez, je vous remercie. On va passer d'abord à l'heure du conte. Et ensuite, on terminera l'émission ensemble. Un homme, très imbu de lui-même, fit recouvrir de miroirs tous les murs et le plafond de sa plus belle chambre. Souvent, il s'enfermait là, contemplait son image, s'admirait en détail, dessus, dessous, devant, derrière. Il s'en trouvait tout regaillardi, prêt à affronter le monde. Un matin, il quitta la pièce sans refermer la porte. Son chien y pénétra. Voyant d'autres chiens, il les renifla. Comme il le reniflait, il grogna. Comme il grognait, il les menaça. Comme il menaçait, il aboya et se rua sur eux. Ce fut un combat terrible. Les batailles contre soi-même sont les plus féroces qui soient. Le chien mourut exténué. Anacette passa par là, tandis que le maître du chien, désolé, faisait murer la porte de la pièce au miroir. « Ce lieu peut beaucoup vous apprendre, laissez-le ouvert. »« Que voulez-vous dire ?»« Le monde est aussi neutre que vos miroirs. » Selon que nous sommes admiratifs ou anxieux, il nous renvoie ce que nous lui donnons. Soyez heureux, le monde l'est. Soyez inquiet, il l'est aussi. Nous y combattons sans cesse nos reflets et nous mourons dans l'affrontement. Que ces miroirs vous aident à comprendre ceci. Dans chaque être et chaque instant, nous ne voyons ni les gens, ni le monde, mais notre seule image. Voyez cela, et toute peur, tout refus, tout combat vous abandonneront. C'était Jean-Marie Marcos pour Invitation au bonheur. Avec Alizé et Marianne, je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur, mais auparavant, Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.
Sleep. It'll be a sign.